y a celui
et Yahweh que tu es venu à Sarah.
Laisser parler à ton cœur. Dis Seigneur, ce que je vais entendre ce soir, même si ça me bouleverse, je le ferai. Seigneur, je veux partir sur de nouveaux fondements. Ce que tu me révèles ce soir, je saisis par la foi et je m'engage dans une parfaite obéissance à l'accomplir dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce jour nouveau que tu nous donnes. Tu nous appelles à poser de nouvelles fondations, de nouveaux fondements. Nous t'en prions. Saint-Esprit de Dieu, parle à nos cœurs, que notre intelligence cesse de conduire notre vie, que notre sagesse se soumette à la sagesse suprême Jésus-Christ, que nos corps, nos âmes et nos esprits t'écoutent et se mettent en mouvement tel que ton Saint-Esprit le désire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, veuillons nous asseoir. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà révélé et ce qu'il a déjà fait dans des vies et qu'il fera encore. Ce soir, nous allons aborder le thème de nouveaux fondements, qui sera traité en deux temps. Je vais me charger de la première partie et un second intervenant facilitateur s'intéressera à la seconde partie. De nouveaux fondements. Tout ce qui existe, tout ce qui est déclaré, tout ce qui est vécu, prend sa source quelque part. Et là où elle prend sa source, on appelle cela un fondement. Le fondement est la base sur laquelle s'appuie ta vie, s'appuie ta réflexion, s'appuie ta production. Ça peut te naître. Tu n'es que le résultat de ton fondement. Parfois, on voit des gens réagir d'une certaine manière et on est étonné. En fait, moi, j'ai cessé d'être surpris par les réactions des uns et des autres. Tout simplement, je questionne leur fondement. Quand vous voyez quelqu'un agir d'une certaine manière, c'est la repas de son fondement. Il n'a pas été créé comme ça. Mais ce sur quoi repose sa vie l'amène à agir de cette manière. Alors, il y a deux types de fondements ou de fondations. De mauvais fondements qui nous amène à de mauvais résultats, c'est-à-dire à l'échec, et de bons fondements qui nous amène à des résultats aussi bons pour notre épanouissement. Cet après-midi, nous allons nous intéresser particulièrement aux mauvais fondements. Comment ces mauvais fondements prennent corps? Quelle est ma responsabilité dans le fondement qui dirige ma vie? Comment faire lorsque un mauvais fondement a été posé et présenté en introduction pour la seconde partie de nouveau fond, le nouveau fondement sur lequel nous devons bâtir. Amen. Lorsque nous parlons de nouveau fondement ou de mauvais fondement, l'adjectif mauvais dit que ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Nous allons évoquer quelques mauvais fondements. On ne peut pas tous les évoquer. Mais nous allons évoquer ce qui, à notre sens, selon l'orientation que Dieu nous donne, font de nous des personnes assez mauvaises. Des personnes qui influencent même des vies négativement. Nous allons commencer par le fondement ou la fondation de l'occultisme. L'occultisme, c'est quoi? C'est des pratiques obscures, comme on dit occultes, c'est-à-dire des choses cachées, des choses mystérieuses, des choses qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Ce que je vais dire ce soir va bouleverser des gens. Mais c'est par amour, comme dit Hébreux 13, Hébreux 12, que Dieu nous corrige parce qu'il nous aime. Fondement de l'occultisme. Je vais commencer par des rites initiatiques. Le Nyam Nyam. Qui connaît le Nyam Nyam? Ok. De même que tu envoies ton enfant à l'école, tu donnes ton enfant à la maîtresse de la maternelle le premier jour. De même, quand tu donnes ton enfant au nyan-nyan, tu dis, faites de lui ce que vous voulez. Initiez-le à ce que vous désirez. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un rite initiatique. Un rite initiatique assez fort et traumatisant. Une fondation qui abrutit et qui aliène même la personne. Dans ce rite initiatique, on vous fait avaler le cœur d'une petite poule. Que vous tenez joyeusement, torse nu pour entrer dans une forêt et dans un lieu où vous déclarez un certain nombre de choses. Que vous ne comprenez même pas parfois. On vous fait consommer un breuvage. Un breuvage assez fort qui a mis longtemps. Et on vous place sous des divinités qui dirigent la forêt sacrée. Qui dirige le village. On dit qu'on fait de vous par là un homme. Et c'est vous-même qui tenez la lame et le petit poulet qui va servir au sacrifice. Cette lame-là, on va égorger le poulet, on va retirer son cœur, on va vous faire avaler cela cru. Et plus tard, on va vous demander, oui, les mamans, vous ne savez pas ça, vous envoyez seulement vos enfants. On va vous demander plus tard de choisir parmi les animaux de la forêt, sauf le lion, parce que le lion, c'est quelqu'un quelque part. Et quand vous allez choisir, on appelle ça en anthropologie culturelle le totémisme par transfert. Ça veut dire qu'on vous prépare à avoir un totem qui va diriger votre vie. Alors, pendant le rite initiatique, il y a une calebasse qui vous connecte à vos parents, qui est dans la cage de vos parents. Et chaque fois, ils doivent venir mettre de l'eau. Et tant que vous connaissez des souffrances, là-bas, l'eau tarit. Et si l'eau tarit, si vous arrivez à mourir dans le rite initiatique, alors l'eau, il n'y a plus d'eau. Ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et pourquoi ils doivent donner toujours à manger. Et on ne donne pas n'importe quoi. Donc, les pistaches, tout ce que vous donnez, et les danses
Il y a une initiation à la danse. On ne danse pas n'importe comment. On apprend à danser le soir. Le soir, dans la case. Et si tu ne danses pas bien, ton guide te corrige un peu. Mais le prix de l'initiation est payé par les parents. Donc tu payes pour que ton enfant aille souffrir. Tu payes sa souffrance. Tu dépenses de l'argent pour sa souffrance. Voilà le premier rite. Le second rite, c'est celui des jumeaux. On dit que la sortie des jumeaux. Il y a des jumeaux ici dans la salle. Je ne vais pas te provoquer. Non, je vais dire des choses pour te libérer. Qui est Maï? Ah, tu es béni. Tu es béni. Ok. Je voudrais vous dire une chose. Les jumeaux n'ont aucun pouvoir. Si ce n'est ce que vous voulez conférer. J'ai dit que je vais vous bouleverser ce soir. Et si tu veux, tu rentres à la maison, tu vois tes jumeaux. Ils te diront que toutes les fois qu'ils ont voulu que tu dépenses de l'argent, ils ont fait des choses. Toutes les fois qu'ils ont voulu que tu souffres, ils ont fait un certain nombre de choses. Parce que toi, tu sais qu'ils ont un pouvoir. Et si tu as fait le rite des jumeaux, alors tu es lié par alliance à une chaîne mystique. C'est pourquoi on dit que les jumeaux sont les amis de quelqu'un, n'est-ce pas? Que je ne vais pas citer, parce qu'il ne faut pas que la personne dise qu'elle est citée. On dit tout simplement qu'ils sont les amis de quelqu'un. Dans cette pratique des jumeaux, vous allez vous rendre compte que il y aura un parmi les jumeaux qui va de temps en temps vous menacer. Qui va vous menacer. Et il va vous menacer toutes les fois qu'il sentira que vous portez l'attention sur l'autre. Et quand vous allez porter l'attention sur l'autre, alors vous allez vous rendre compte sur lui, vous allez vous rendre compte que il y a comme une harmonie dans votre foyer. Ça, c'est le pouvoir que vous lui avez donné. Vous lui avez dit que votre vie dans la maison dépend de ce que de ses humeurs et de ce qu'il dit. S'il ne veut pas manger, laissez-le. Vous allez vous supplier après pour manger. Mais si vous commencez à l'écouter, a dit non, il faut qu'on fasse ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant le rite des jumeaux? Vous devez nourrir toutes les familles qui ont eu des jumeaux. Vous devez aller à l'entrée du village. Il y a un canari que vous devez porter. Et il y a des crachats qu'ils doivent mettre à l'intérieur. Et il y a des aliments que vous devez préparer spécialement pour eux. Et inviter toutes les autres femmes qui ont eu des jumeaux et des jumelles, ainsi de suite, pour le village. Ce rite-là, c'est un rite de connexion. Ils se connectent entre eux. Il y a notre grand-père, un jour, il a dit que depuis, on n'avait pas fait sa part de sortie de jumeaux. On lui a dit que comme tu es Maniaga, fais alors ta part. Fais ta part comme tu veux. Il a dit que non, c'est nous qui devions faire. On lui a dit que si tu attends qu'on vienne faire ton rite de jumeaux, comme tu te fâches souvent là, tu dis qu'on n'a pas fait ton rite. Il n'y aura pas de rite. Fâche-toi toujours. Depuis ce jour, il est devenu très calme. Alors, il y a un autre rite qui est pratiqué aussi même dans le nyan-nyan, c'est qu'on passe par le feu. Il y a une initiation, une danse autour du feu. Et il y a plusieurs mamans ici qui ont souvent mis la tête des enfants à côté du feu, n'est-ce pas? Pour une certaine pratique, on a dit que l'enfant, s'il y a quelque chose, il a 4 E. D'autres ont même mis dans, à côté du WC. Hein? Je ne vais pas parler des rites avec l'eau. Je vais arriver à ces rites lorsque je vais parler de l'idolâtrie. Que dit la Bible au sujet des rites que je viens d'évoquer? Ouvrez vos Bibles dans Deutéronome 18, versets 9 à 13. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devant, c'est-à-dire de marabout, de magicien, d'astrologue. Merci. Alors, le texte est assez clair. Dieu a horreur d'un certain nombre de pratiques. La dernière pratique initiatique qui est territoriale, qui connecte les personnes à des territoires, c'est le nombril. Les gens enterrent les nombrils au pied des bananiers. Et d'autres voyagent même avec la terre de leur village. Quand l'enfant veut aller au Canada, on dit que allons d'abord au village. On pose les pieds sur la terre. Et on lui donne une petite quantité comme ça. Quand arrivé là-bas, tu mets dans une chambre. Quand il y a un problème, tu mets un peu au sol comme ça. Tu dis que le Dieu de notre concession, protège-moi. Assiste-moi. Si vous avez trouvé un passage biblique qui dit que lorsqu'on prend le nombril, il faut aller l'enterrer, vous me communiquez. Là, moi, je vais commencer à pratiquer. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à travers ce cordon qui vous unissait à la mer, vous avez dit maintenant à la terre que désormais le cordon qui l'unissait à la terre ne l'unit à la mer, ne l'unit pas seulement à la mer, mais maintenant à la terre. À la terre avec tout ce qu'elle renferme. Et tous les rites initiatiques qui sont faits sur cette terre, vous êtes connectés à ces rites. Vous êtes connectés à ces rites. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui est très loin aux États-Unis, dit que pardon, cherchez un peu, regardez un peu les choses là-bas au village. Parce qu'il est connecté à ses rites.
Jésus vient.
Heureusement qu'il y a un nouveau fondement. Alors, donc tout cela, en plus des rites, où on dit qu'on vous lave dans les cours d'eau. On vous lave et on vous dit ne regardez pas derrière. Vous allez à des carrefours, vous voyez souvent des carrefours. Vous arrivez à des carrefours, vous voyez des pièces de 5 francs. Vous voyez de l'eau qu'on a avec des herbes et des eaux qu'on a cassées. Je veux dire à quelqu'un ce soir, les rites auxquels tu subis et qu'il y a des lavages avec de l'eau, ça te connecte aux esprits des eaux. Et les œufs qui sont cassés sur ta tête ou avec lesquels on te demande parfois de te poindre, ce sont les esprits de serpents auxquels tu es connecté. Les oiseaux qu'on égorge et qu'on laisse parfois sur ta tête voler, c'est l'esprit d'oiseau. Tu vas parfois rêver que tu es en train de voler comme un oiseau. Dieu a dit que vous serez entièrement consacré à l'Éternel. Alors, deuxième rite, deuxième mauvaise fondation, et cette fondation de l'occultisme, Il y a des parents qui sont dans la Rose Croix, dans la franc-maçonnerie, dans les lycées maintenant. On a des jeunes enfants qui initient leurs camarades à la Rose Croix. Dans les lycées ici à Bafoussam. Qui enseignent dans les classes de terminale. Qui parlent à leurs camarades de la Rose Croix, comme je vous parlais de Jésus-Christ. Et il faut faire très attention. Parfois, ce que tu écoutes commence à déterminer ta vie. Et c'est une fondation. Ce que tu écoutes commence à polluer ton esprit. Et tu crois que c'est ça qui est la vérité. Et Paul nous dit que les gens ont abandonné la vérité, sont mis à suivre des fables habilement conçues. Alors, le second, c'est la fondation de l'idolâtrie. La fondation de l'idolâtrie est tellement grave. C'est une fondation qui vous met sous l'autorité d'une divinité. Ouvrons nos Bibles dans Deutéronome 13, les versets 1 à 5. Vous allez voir ce que Dieu dit. Déjà, vous marchez en route, ils vous disent que non, il y a quelque chose sur vous, il faut que vous alliez sacrifier sur le crâne de vos ancêtres et tout et tout. Bon, je lis très rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Donc, tout ce qui est fait dans l'idolâtrie, c'est le mal qui est au milieu de toi. C'est la fondation du mal. Et Dieu dit que ces marabouts, ces enchanteurs doivent être tués. Ils sont la source du mal. Et la Bible le dit dans 1 Corinthiens que ce qu'on sacrifie, c'est à des démons qu'on sacrifie. La fondation de l'idolâtrie. Comment est-ce que même des personnes qui n'ont pas atteint la classe du directeur devraient comprendre un certain nombre de choses? Comment est-ce qu'on peut te dire que la poule va enlever une malédiction sur ta vie, qu'on va aller parler sur un arbre et la malédiction là va quitter? Toi, tu crois ça? Il ne faut même pas avoir fréquenté, il ne faut même pas être sage pour comprendre ça. Comment est-ce que une poule, la malédiction, elle est spirituelle? Comment est-ce que l'eau qu'on va verser sur ton corps va enlever la malédiction? Est-ce qu'on combat les esprits avec l'eau? Il y a même une forme d'idolâtrie qui commence à entrer dans l'église protestante. On finit un baptême, les gens viennent dire que pasteur, donne-moi un peu l'eau là. Je veux mettre un pas à la maison. Ça, c'est de l'idolâtrie. L'eau du baptême n'a aucun pouvoir. C'est la parole qui est déclarée qui a la puissance, qui intervient. Donc, après le baptême, là, c'est l'eau. C'est de l'idolâtrie. Il y a tellement de l'idolâtrie dans l'église aujourd'hui. Quelqu'un vient dire que, pasteur, donne-moi un verset biblique là. Que quand je veux lire ça, Satan va seulement entendre, il va fuir. Quelle est cette histoire là? C'est dans ton cœur
c'est ta communion avec Dieu. C'est l'autorité, tu le détiens, tu détiens l'autorité de Dieu. Ce n'est pas d'une phrase que tu auras citée. Ce sont des pratiques magiques. C'est dans la magie qu'on dit qu'on te donne un livre, on dit que quand tu vas arriver, tu lis comme ça, ça va agir comme ça. Ce n'est pas ça avec Dieu. Alors, ça c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie également, ici, il y a des personnes qui vont vous rencontrer en route. Ne commence pas l'idolâtrie de la télévision et que les gens sont tellement accrochés. On a parlé de la divination, ceux qui prédisent l'avenir, l'horoscope. On dit que je suis cancer. Moi, cancer, je refuse. Que je suis bélier, je suis scorpion. Toi, tu acceptes, tu es taureau. Tu es poisson. Dieu te crée homme, tu dis que toi, tu es poisson. Il faut savoir que les confessions nous condamnent. Les confessions nous condamnent. Il te sera fait selon ta foi. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Dès aujourd'hui, il faut renoncer à l'horoscope. Annule tout ce que tu croyais sur l'horoscope. On dit jour de chance. La Bible nous dit tout à l'heure dans Deutéronome 13 que si il y a quelqu'un qui te dise quelque chose et que cela s'accomplisse. Parce que ces marabouts peuvent dire quelque chose et ça s'accomplit. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit que ça s'accomplit. C'est parce que Dieu l'avait préparé. Maintenant, quand ça s'accomplit, si ça s'accomplit, il te dit que allons vers d'autres dieux. C'est là où l'idolâtrie commence. Allons vers d'autres dieux. Sacrifions telle chose. Tu ne les écouteras pas. Tu ne les écouteras pas. Si tu les écoutes, c'est une mauvaise fondation qui commence à être bâtie dans ta vie. Une autre mauvaise fondation, on a vu avec les enfants d'Israël dans 1 roi 17 où les dieux de Baal n'ont pas pu envoyer le feu. Et toute la journée, ils ont prié. Comme des personnes qui partent parfois allumer le feu dans la case de leur père, ils disent qu'ils chauffent le crâne de leur père. Ils ne ressentent même pas un peu la chaleur. C'est comme les dieux de Baal. Donc, les dieux de Baal ont crié pendant toute la journée. Leur dieu n'a pas envoyé le feu. Ça, c'était le dieu de l'idolâtrie. Et toutes les fois que tu crois que quand tu es dans la case de ton père au village, tu dois allumer le feu. Tu dois aller parler sur sa tombe. Il y a tellement de formes d'idolâtrie. Des gens qui partent déposer des gerbes de fleurs. Et papa, depuis que tu es parti, vraiment, nous, tes enfants, on est venus déposer la gerbe de fleurs ici pour te dire que nous sommes encore là, nous, que tu penses à nous. Ils pensent quoi à toi? C'est de l'idolâtrie. Ouvrez vos Bibles dans Ecclésiaste chapitre 9. Parce que quand je vais dire comme ça, les gens vont dire que mais le pasteur il dit des choses. Est-ce que la Bible a même dit ça? Dans Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 4, je vais lire rapidement pour nous. Alors, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien. Je continue. Et il y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Leur mémoire est oubliée. Et leur amour, leur haine, et leur envie ont déjà péri. Ton père qui est mort ne peut pas avoir de la haine pour toi. Tu dis que ton père t'a poursuivi la nuit et qu'il faut que tu ailles verser un peu l'huile sur son crâne pour qu'il se calme. Et même si tu fallait donner la nourriture à ton père, donc la part de ton père, on jette par terre. Il faut réfléchir. Il y Les vivants en effet savent qu'ils mangent. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais, soulignez bien, jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil.
Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Le petit vin, hein, le cas de vin, on a montré hier. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais.
Donc, la fondation de l'idolâtrie nous tient tout simplement parce que nous, il y a même un homme dans la Bible, un roi, Jéroboam, qui a été le spécialiste de l'idolâtrie. Ça veut dire que le gars-là a défié tous les records de l'idolâtrie dans la parole de Dieu. Et il y a les Jéroboam, il y a l'esprit de Jéroboam qui règne dans les familles. Et vous allez voir dans 1 Roi chapitre 16, verset 19, on dit que l'esprit de Jéroboam, ceux qui marchent selon la voie de Jéroboam. 1 Roi 16, celui qui a trouvé, lit très rapidement. Parce que je ne vais pas lire toute son histoire. Vous allez pouvoir lire ça à la maison, même dans 2 Rois chapitre 12. 1 Rois chapitre 12 à partir du verset 25 à 33, vous pouvez lire. Mais je vais m'intéresser tout simplement au verset 19. De 1 Rois 16. C'est ainsi qu'il mourut à cause des péchés qu'ils avaient commis, en faisant ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, en marchant dans la voie de Jéroboam et en se livrant au péché que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. Qu'est-ce que Jéroboam avait commis? Nos gars-là avaient fait un genre d'idolâtrie avec des sacrifices bizarres. Et aujourd'hui, les gens se lèvent et disent que c'est ce que nos parents nous ont laissé. Nous suivons nos parents. Attention. Tu peux être en train de suivre Jéroboam. L'idolâtrie. Que nos parents ont fait comme ça. Nous aussi, on les suit. On ne suit pas la Bible. Tu ne suivras pas la multitude dans son égarement. Des gens disent que non. Parce qu'on est nombreux à faire ça. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens font que c'est bien. Et il y a des choses que Dieu... Vous dites que pourquoi Dieu a alors permis? C'est la dureté de votre cœur. Dieu n'a pas programmé ça, que tu ailles faire ça. Il a même interdit. Bon, en fait, c'est qui interdit qui nous a dit souvent, n'est-ce pas? Alors, une autre fondation, celle des personnes qu'on appelle des cartésiens, des rationalistes, des scientistes. C'est-à-dire des gens qui, pour eux, c'est un raisonnement logique. Si c'est pas logique, ils ne sont pas là-dedans. Or, il y a une religion aujourd'hui qui se cache derrière le raisonnement scientifique qu'on appelle la scientologie. La scientologie se débrouille à démontrer chaque chose bibliquement sur la base des découvertes scientifiques. Je voulais te dire une chose. Les connaissances scientifiques seront toujours remises en cause. Mais Dieu, lui, ne sera jamais remis en cause. Ce que la Bible dit là, la science a voulu démonter au 19e siècle. Tout, on a passé au crible de la raison. Eux-mêmes, ils étaient fatigués. Ils ont dit que non, il y a une puissance là derrière, il y a quelqu'un. Des gens m'ont voulu écrire d'autres Bibles, ça n'a pas marché. Même se sont mis encore à se discuter là-dessus. Le raisonnement scientifique, tu peux faire la philosophie, tu peux connaître tout ce qu'on a écrit en philosophie, mais ça ne change pas. Ta fondation là est nulle. Elle est nulle. Elle est nulle pourquoi? Parce que tu es en dehors de celui qui donne la sagesse, la connaissance. C'est pourquoi science sans la conscience de la présence de Jésus-Christ ne peut conduire qu'à la ruine de l'âme. Si vous faites de la science et que vous n'avez pas conscience de la présence de Jésus-Christ dans votre science, vous êtes perdu. C'est pourquoi les scientifiques ont commencé à se rendre compte de la puissance de la prière. Ils en ont voulu montrer ça. L'autre jour, j'ai vu quelque part, ils étaient en train de faire une démonstration parce que un grand chercheur avait été confondu. Il avait vu quelqu'un dans une phase de cancer hyper terminale. Lui-même avait déjà décrété que la part de la personne, si c'est fini, attendez seulement. Mais il y a des chrétiens qui sont venus pour prier. Et il s'est rendu compte que le patient, chaque fois que les gens priaient, il y avait une réaction différente. Il a commencé donc à tester par l'électrode le cerveau. Il a vu que le cerveau, une partie de l'hémisphère cérébral, réagissait favorablement à la prière. Et il a dit que désormais, les médecins doivent associer les pasteurs à leur traitement. Parce qu'il y a un hémisphère dans le cerveau qui est conçu de telle manière que lorsque on déclare des choses, la sensibilité de cet hémisphère réagit et est favorable à la personne. J'ai dit, ah, si les scientifiques connaissent déjà la puissance de la prière, c'est déjà bon. Donc, Dieu est au-delà de ces choses-là. La Bible que nous, pour laquelle nous, Jésus-Christ que nous croyons, il est vrai, il est authentique. Il ne ment pas. Et quand Dieu dit de prier, il sait qu'il y a la clé là-bas. Il y a la clé là-bas. Les connaissances scientifiques seront toujours remises en cause. Elles seront remises en cause parce qu'elles ne reposent pas sur un fondement solide. Quelqu'un avait trouvé une formule, n'est-ce pas? Il a trouvé une formule, mais sa formule a servi à fabriquer la bombe à... Mais lui cherchait la formule pour faire autre chose. Mais on s'en sert de sa formule pour faire la bombe atomique. Donc, les connaissances scientifiques vont nous laisser toujours vides. Il viendra toujours un temps où chaque chose qui est faite, le confort intellectuel, regardez par exemple, nous sommes dans un pays où des gens ont des diplômes. Le diplôme que tu as, les connaissances que tu as, c'est une mauvaise fondation, ça ne te détermine pas. Si ça te détermine, pourquoi tu es chômeur? Or, qu'est-ce que nous faisons? Nous passons le temps. On bouscule nos enfants. On ne veut pas donner Jésus-Christ à nos enfants. Mais on veut leur donner. On entend qu'il est allé à Harvard. Il a le diplôme de ceci. Il a le diplôme de cela. Et après quoi? Après rien. Il ne croit pas Jésus. Le premier diplôme que tu as tu as donné à ton enfant, c'est Jésus. Parce que s'il a tous ses diplômes, et quand il sera chômeur, il va venir rester à la maison avec toi. Tu dis, j'ai ma fille, elle a le BTS, elle a la maison. Tu commences à citer, mon garçon, il a le master 2, il a la maison. J'ai ma fille, elle vient d'avoir le bac, elle a la maison. Toi, tu cites tout ça, pourquoi? Tu vas attraper l'AVC. Parce que la fondation, c'était la fondation scientifique. Tu pensais que leur avenir est déterminé par la science et les diplômes qu'ils auront. C'est bon d'avoir les diplômes. Il faut avoir les diplômes. Mais si ta vie est fondée sur les diplômes, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'autre fondation, c'est la fondation de la religion. Ça, c'est la fondation qui nous tue seulement. La fondation de la religion, c'est la fondation des artifices du contentement. Mohammed, Bouddha,
Marie, tous ces gens-là ne peuvent pas t'aider. Krishna, tout ça, tes ancêtres, c'est... Est-ce que vous savez pourquoi les gens aiment aller faire des sacrifices? Les gens vont faire des sacrifices parce que c'est la religion. C'est-à-dire qu'il a au moins fait un effort. Si je disais ici que pour entrer au ciel, chacun donne 100 000, je suis sûr que demain, on aura 100. Chacun va se battre pour trouver ça. C'est ça la religion. La religion te dit que bon, quand tu as fait ça, c'est que c'est bon. La religion, c'est que tu récites des choses. La religion, c'est que tu crois à des systèmes. Tu ne crois pas en la parole. Tu ne crois pas en Dieu. Tu fais un certain nombre de choses tout simplement pour avoir un peu une quiétude. Pour avoir une petite quiétude dans ton esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la religion? Vous voyez les gens en train de compter les choses, non? Ils comptent, ils comptent, ils comptent. Comme s'ils mangeaient la cola. Ils comptent, ils comptent, ils comptent, ils comptent. Ça, c'est la religion. L'autre finit la religion, il finit de réciter, il récite, il récite, il récite, il récite. Et dans l'église protestante, aujourd'hui, il y a la religion. La religion, c'est la religion du pasteur. Pasteur, impose-moi les mains. Ça, c'est la religion. Pasteur, impose-moi les mains. J'ai pas bien dormi. Il faut que la dernière fois comme tu m'as imposé les mains, j'ai bien dormi. Ça, c'est la religion. La religion dans l'église également, c'est sur les apparences. Il y a un de nos grands frères quand on initiait dans l'église évangélique le ministère de la guérison et de la délivrance, dans les ateliers que nous avons dirigés, il nous dit qu'il ne va jamais essayer l'autre là. Il ne faut pas qu'un démon un jour le gifle. Mais curieusement, un jour, il est confronté à une situation. Vous savez ce qu'il a fait? Il allait porter sa robe. Il allait porter sa robe et il vient et dit, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par le Seigneur de Théâtre en 1986, je te donne. J'ai du mal à regarder comme ça. Ça, c'est la vision. Certains croient que leur pouvoir c'est dans leur habit blanc. Que c'est quand ils vont porter la pluie avec la croix ici, comme ça là, qu'il y a la puissance sur eux, vraiment fire. C'est la religion. La religion. La religion également a ceci qu'elle nous éloigne de la vérité. Et c'est ça qui est très dangereux dans la fondation de la religion. La fondation de la religion a ceci de particulier, c'est que même quand on te dira que ceci n'est pas bon pour Dieu, nos pères ont fait cela. Nous avons trouvé cela. Je suis, voilà comment les gens se définissent. Je suis catholique. Je suis protestant. Je suis adventiste. Je suis musulman. Je suis catholique. Ça, c'est leur religion. Vous avez lu ça dans la Bible? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir d'être catholique. Le pouvoir d'être enfant de Dieu. C'est ça qui, de ça qu'il est, il s'agit. C'est ton identité. Et si ta fondation est déterminée par la religion, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, la fondation de la religion sur laquelle repose ta vie fait de toi quelqu'un de léger. Au point où il y a des choses que tu es capable de faire, mais tu as mis ta confiance en l'homme.
une soeur vient me dire que vraiment elle avait tel problème, elle a appelé le prêtre à la maison, il est venu, il a prié, il a versé le sel, il a versé l'encens, il a fait. Je lui dis, qu'est-ce que tu attends alors de moi? Si le prêtre a fait ça, moi je vais faire quoi? Moi je ne suis pas dans la religion. Il faut que tu confesses Jésus-Christ. Je voulais poser la question à quelqu'un qui est dans la religion. Vous savez, dans la religion, la confiance repose sur qui? Sur un homme. Maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Il y a des gens qui ne croient qu'au pasteur. Ah, Jésus lui-même ne sert à rien. C'est le pasteur qui est quelque chose. Moi, je ne suis pas mort pour quelqu'un. Hein? Là, je ne suis pas encore mort. Je ne vais pas mourir pour quelqu'un. Le pasteur ne peut pas te sauver. Le prêtre ne peut pas te sauver. Et si tu crois qu'il a un pouvoir mystique, pendant notre consécration, dis que, pasteur, pardon, dis-nous, on vous a mis quoi dans le ventre? Parce que le commun pense que, avant la consécration, on nous prend sûrement, on va quelque part, on nous met quelque chose dans le ventre, un pouvoir. Et d'autres ont même inventé des choses. Que avant ça, il y a des gens qui meurent. Hein? Il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne nous donne pas un pouvoir. Il n'y a pas un pouvoir quelque part. En dehors de ce que Jésus a donné, il n'y en a pas. Et si quelqu'un vous dit qu'on lui a donné, c'est qu'il a pris peut-être chez ses ancêtres avant de venir là-bas.
Nous avons besoin.
La fondation de l'argent. Alléluia. L'amour de l'argent est la racine de plusieurs maux et quelques-uns qui se sont attachés, se sont écartés loin de la foi. Certains pensent que l'argent est devenu leur raison de tout. Et il y a des gens qui ont réduit en disant, l'argent vraiment, si j'avais l'argent, hein, j'allais faire ceci, j'allais. Si tu as l'argent, tu allais encore chercher l'argent. Tu ne seras jamais rassasié d'une telle fondation. Et avec l'argent, si on te donne, ça va t'embrouiller, ça va te créer des problèmes. Donc, quand on parle de la fondation de l'argent, c'est que tu définis ta vie en relation à l'argent. Je souffre comme ça parce que je n'ai pas l'argent. Si j'avais l'argent, j'allais faire comme ça. Tellement pris mon argent. Ça veut dire que tout ce que tu parles, tu ne peux pas dire deux phrases sans que l'argent sorte. Tout pour toi est déterminé par l'argent. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque notre fondation est celle de l'argent? La plupart des personnes qui ont de l'argent, lorsqu'elles font une petite faillite, elles sont disposées pour l'AVC. Je connais quelqu'un comme ça. Elle avait des affaires, des grandes affaires. Elle est rentrée avec sa marchandise. Certaines personnes à Douala l'ont aidé à garder. Dans le mauvais sens, bien sûr. Sur place, elle s'est écroulée. Allez, déposez les ballots comme ça. Vous allez quelque part, vous revenez. La place est propre. Vous allez n'avez rien déposé là. C'est seulement retrouvé à l'hôpital. L'hôpital. Et pour sortir de là, c'était l'AVC. L'argent, quand c'est ce qui te tient, tu perds tout sens humain. Tu es capable de tuer. Tu es capable de chercher même à t'enrichir. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des jeunes qui sont prêts à entrer partout pour de l'argent. Qui font des crimes par-ci, par-là. Des gens vont déterrer. Ça dit qu'on a mis quelqu'un, il est mort. Il n'a pas été déterré, les ossements, parce qu'il veut de l'argent. Au Gabon récemment, on a vu des jeunes filles et des jeunes garçons qui aidaient les Chinois à attraper certains Gabonais et les égorger, les manger. Et parce qu'on donnait de l'argent. De l'argent. L'argent. Donc, quand ta fondation est celle de l'argent, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Une dernière fondation, celle de l'ignorance et de l'incrédulité. Osée 4 nous dit que je ne cesserai de le dire. Là où Satan réussit à agir dans le monde, c'est là où les gens ne connaissent pas. Et Satan s'évertue, il travaille jour et nuit pour que tu ne connaisses pas. Et toutes les fois que tu ne connais pas, tu es une proie. Toutes les fois que tu ne connais pas ce que Dieu a prévu, tu es une proie. Et Satan peut faire de toi ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger l'ignorance? Je vais donner un travail. Hier, on vous a donné un devoir. Moi, je vais vous donner un travail.
Je te bénis, Père.
Cherchez à connaître qui est Jésus-Christ. C'est le seul travail qu'il veut vous donner. Et lisez tout l'évangile de Jean. Cherchez vraiment à connaître dans les détails qui est Jésus. Ce qu'il a fait. Ce qu'il est capable de faire. Ce qu'il attend de toi. Dès que tu auras cette connaissance de Jésus, il y a beaucoup de choses qui ne vont plus t'ébranler. Quand quelqu'un te dit que montre-moi ta main, je veux lire les choses, tu lui dis c'est quel verset biblique. Mais comme toi tu ne connais pas, tu dis que non, vraiment, je peux pas aussi me sauver comme ça, on ne sait jamais. Est-ce que vous savez que dans Lévitique 18, Dieu a interdit les relations contre nature et que l'homosexualité qui est répandue aujourd'hui, la zoophilie, les pratiques, les gens qui vont coucher avec des animaux, que ce sont des choses que Dieu a interdites. Mais si tu ne connais pas, si tu ne lis pas la parole, tu vas connaître comment. Il y a des chrétiens ici que le seul jour où ils entendent la parole de Dieu, c'est le dimanche. Le seul jour où ils sont en contact avec la parole, c'est le dimanche. Et peut-être qu'il y a des enseignements comme ça. Mais si tu lui demandes tout ce qui s'est passé au quartier, non, il va te dire. Il connaît tout. La fondation de l'incrédulité. Hier, je disais dans la prédication que l'incrédulité, c'est le fait de connaître ce qui est bon pour son salut, mais de refuser d'y croire, d'adhérer à cela. Tu connais que cette chose-ci, ce que tu viens d'entendre là, c'est bon pour ton salut. C'est des gens qui disent toujours oui et ils ajoutent mais. Il y a aussi ça. Il faut, et qui ont tordu le sens des versets bibliques et qui disent même des choses qui n'existent pas dans la Bible. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc César, c'est ton grand-père. Ton grand-père ne s'appelait pas César. Donc il y a des choses, ils tordent le sens. Ça, c'est les incrédules. Les incrédules vont vous dire, ah c'est la chose des blancs. Il faut être sage. Sage. Les blancs ne voyez pas comme ça. Il faut être sage. Ça c'est les incrédules. C'est la fondation de l'incrédulité. Jésus-Christ donc est le nouveau fondement. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13. Nous allons lire pour terminer. 1 Corinthiens 3, verset 13. Je voudrais qu'on le lise tous ensemble.
à 3, on va lire. Ouvrez vos Bibles. 1 Corinthiens 3, verset 13. Nous allons commencer au verset 10 et on va s'arrêter au verset 15. À 3, nous allons lire. 1, 2, 3. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Arrêtons-nous là. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Je lis pour nous le verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Si tu veux que ton œuvre soit manifeste, il faut bâtir sur de nouveaux fondements. Et le nouveau fondement, c'est Jésus-Christ. Amen. Demain, nous allons continuer. On va se lever pour la prière. Si le Seigneur a révélé un mauvais fondement dans ta vie, dis merci au Seigneur pour ça. Et dis-lui, Seigneur, j'ai hâte de me séparer de ce fondement. J'ai hâte que tu me libères de ce fondement. Dis à Dieu que tu veux le fondement qui est posé par Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Prie même pour tes enfants. Peut-être tu les as initiés à des choses que tu ne savais pas. Aujourd'hui, tu sais. Dis que cette fondation-là, elle est détruite. Et que tu veux poser une nouvelle fondation, Jésus-Christ. Oppose-toi à toute fondation de la religion, à toute fondation de l'incrédulité, à toute fondation scientifique, à toute fondation de l'idolâtrie, à toute fondation de l'occultisme. Prie pour tes enfants, afin que dans les établissements, ils ne soient pas englués ou emportés par la fondation de l'occultisme. La fondation de l'argent. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta parole. C'est par amour pour nous que tu as révélé ces choses. Je te prie pour mon frère et ma sœur, afin que tu nous donnes l'opportunité de te saisir.
toi le véritable fondement sur lequel notre vie doit être bâtie. Tu es le roc, tu es le rocher sur lequel ma vie prend sens. Père, en Jésus, j'ai la plénitude de la vie. En Jésus, tout a été accompli. Parce que tout a été accompli en lui, ma vie est fondée sur lui. La vie de ma sœur ce soir est fondée sur Jésus. La vie de ma sœur ce soir et de mon frère repose sur l'œuvre de Jésus-Christ. Toute autre fondation sur laquelle sa vie était jadis bâtie perd tout pouvoir et est détruit au nom de Jésus. Merci de te glorifier.